Bonjour, Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 6 octobre 1973, la guerre du Kippour. Gamal Abdel Nasser décède subitement le 28 septembre 1970. Son successeur, Anwar el-Sadat, souhaite restaurer la souveraineté de l'Égypte sur l'ensemble de son territoire amputé au lendemain de la guerre des Six Jours. Suivant la suggestion de l'Organisation des Nations Unies, il se déclare prêt à négocier un traité de paix avec Israël à la condition d'un engagement formel de l'État hébreu d'appliquer la résolution 242 du Conseil de sécurité votée en 1967. Cependant, pour des raisons de sécurité, le gouvernement israélien refuse d'abandonner la péninsule du Sinaï. La Syrie est également déterminée à laver l'affront de la perte du plateau du Golan lors du précédent conflit avec Israël. Par contre, la Jordanie reste pour un temps prudemment en retrait. À partir de 1972, Sadat adopte un ton de plus en plus belliqueux. Il renforce l'équipement de l'armée égyptienne grâce au soutien de l'Union soviétique qui envoie au Caire 20 000 conseillers militaires. Au printemps 1973, d'importants exercices armés sont organisés, en particulier dans la zone sensible du canal de Suez. Le 6 octobre, jour du jeûne de Kippour, la plus importante fête du calendrier hébraïque, l'Égypte déclenche la guerre. Son aviation bombarde en profondeur le territoire israélien, détruisant de nombreux postes de commandement, batteries antiaériennes, installations radars et 3 aéroports. Dans cette opération, les Égyptiens perdent seulement 11 avions. En parallèle, une intense préparation d'artillerie préfigure le franchissement du canal de Suez par les troupes égyptiennes. Au soir du 6 octobre, 60 000 fantassins accompagnés par 5 divisions mécanisées réalisent la traversée. Les Israéliens semblent pris au dépourvu. Ils subissent des pertes significatives. L'intervention du général Ariel Sharon limite l'avancée des blindés égyptiens. La catastrophe est évitée de très peu. Les deux armées adoptent alors une prudente position défensive. Le 14 octobre, les Égyptiens passent à l'offensive. C'est le tournant du conflit. Les Israéliens reprennent l'initiative, les bloquent et gagnent l'avantage en détruisant 250 chars. Ils traversent à leur tour le canal de Suez sur des canaux pneumatiques et suppriment au sol l'impressionnant dispositif de missiles égyptiens qui paralyse l'action de leur puissante aviation. Sur sa lancée, Sharon attaque Ismaïlia. La bataille est rude. Elle dure 4 jours. Les blindés de Tzahal sont tenus en échec par les forces spéciales et les parachutistes égyptiens. Dans le même temps, une division israélienne s'avance à une centaine de kilomètres du Caire, qui est directement menacée. La guerre se déroule également sur le front syrien. Sur le plateau du Golan, les affrontements sont violents. L'artillerie syrienne pilonne Israël qui envoie de nombreux réservistes. Les blindés syriens sont repoussés à partir du 10 octobre. Ensuite, les Israéliens enfoncent les lignes adverses et progressent jusqu'à une quarantaine de kilomètres de la banlieue de Damas. La capitale syrienne est désormais à portée de tir de l'artillerie. Devant l'urgence de la situation, la solidarité arabe s'organise. L'Irak apporte 30 000 hommes et 500 chars pour soutenir l'armée syrienne en grande difficulté. Le Maroc dépêche 6 000 soldats. La Jordanie mobilise ses troupes. Israël est alors contrainte de limiter son offensive. Le 22 octobre, le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte la résolution 338 qui appelle les belligérants à un cessez-le-feu immédiat. Elle demande également l'ouverture de négociations pour, je cite, « instaurer une paix juste et durable au Moyen-Orient ». Les combats cessent le soir même pour reprendre quelques heures plus tard. Il faut attendre le 26 octobre pour obtenir un arrêt effectif des hostilités. Enfin, le 5 mars 1974, Israël retire ses troupes de la rive occidentale du canal de Suez. Le bilan humain est lourd. Tsahal perd plus de 3000 hommes et dénombre plus de 8000 blessés. La coalition arabe accuse 9500 morts et près de 20 000 blessés. En Israël, l'émotion est vive. Une crise morale traverse la société. En effet, l'invincibilité de l'armée et l'efficacité des services de renseignement sont mises en cause. La contestation atteint le ministre de la Défense, Moshe Dayan, le héros de la guerre des six jours en 1967. Une commission d'enquête est désignée. Ses conclusions sont publiées le 2 avril 1974. 6 responsables civils et militaires sont désignés et révoqués, dont le chef d'état-major de Tsahal, le général David Elazar. Le 11 avril, le premier ministre Golda Meir démissionne. Elle est remplacée par Yitzhak Rabin.